Bonjour à tous, comment allez-vous? Je vous souhaite la bienvenue à tous sur le podcast d'Expat Langue Understand Native French. Moi c'est Jean-Baptiste et sur cette chaîne, je vous aide à apprendre le français oral, c'est-à-dire le français parlé par les Français au quotidien et qui est souvent différent du français enseigné dans les livres et dans les écoles de français. Et le sujet d'aujourd'hui sera l'extraordinaire voyage. Ah, si vous saviez à quel point j'aime voyager. Il y a de très nombreuses raisons pour partir en voyage. Pour se reposer sur une plage paradisiaque, pour pratiquer des sports extrêmes dans des paysages à couper le souffle, ou encore pour aller aider des personnes pendant une mission humanitaire. Moi, j'adore écouter les gens me raconter leurs aventures en voyage. Il y a quelque temps, en discutant avec mon amie Marie, je me suis rendu compte que nous avions passé nos vacances dans la même ville en Inde, Mussoorie, une ville pittoresque au pied de l'Himalaya. C'était très étonnant parce que Mussoorie est une toute petite ville qui n'est pas toujours bien connue des touristes étrangers. Alors vous pouvez imaginer que j'ai été très surpris quand, au détour d'une conversation, mon amie Marie a prononcé le nom de cette ville. Mussoorie. J'ai voulu en savoir plus sur son voyage et j'ai décidé de partager cette discussion avec vous. Marie est un personnage haut en couleur. Pendant près de 10 ans, elle a organisé des voyages humanitaires en Inde. Et une année, un couple d'amis à elle lui a demandé d'organiser un voyage spécial. Et par le plus grand des hasards, Marie est arrivée à Mussoorie. Vous allez maintenant entendre cette conversation et on se retrouve juste après pour analyser les structures et expressions utilisées dans cet enregistrement et pour travailler un petit point de prononciation. Si vous souhaitez travailler en détail sur cet épisode, je vous invite à utiliser le guide audio avec les questions et exercices pour vous aider à mieux comprendre la conversation. Ce guide audio est disponible sur le site internet d'Expat Langue, dans la section « Ressources, podcast ». Vous trouverez le lien en description de cet épisode. Vous êtes prêts les amis? C'est parti! Marie, j'y crois pas. On a été, toi et moi, en vacances dans la même ville en Inde.
Oui, laquelle?
Mussoorie.
Incroyable, non?
Ouais, c'est fou, Mussoorie.
Ouais, une des plus belles villes de l'Inde.
C'est incroyable. Moi, je savais pas qu'il existait d'aussi belles villes dans le monde et c'est vraiment insolite. Mais alors, comment t'es arrivée à Mussoorie? Parce que quand même, faut le vouloir d'aller à Mussoorie.
Alors en fait, c'était drôle parce que j'ai organisé pas mal de voyages humanitaires, mais celui-là, c'était pas un voyage humanitaire. C'était un couple dont le mari m'avait proposé d'emmener sa femme pour faire ce voyage-là, parce qu'ils étaient habitués à faire que des voyages luxueux, dans des hôtels 5 étoiles. Ils avaient fait tout le tour du monde. Et il avait entendu parler de ce que je faisais comme voyage. Et il m'avait proposé de le faire et il m'avait invité à le faire. Donc on est partis, on était trois.
C'est-à-dire que toi, tu faisais des voyages humanitaires, c'est ça?
Voilà.
Tu les organisais ou tu les accompagnais?
Non, je les organisais.
Tu les organisais. Et donc, cette femme voulait faire un voyage humanitaire, mais elle ne savait pas véritablement... Enfin, voulait faire ça. Un voyage humanitaire, elle ne savait pas comment faire. Donc, on t'a demandé à toi de les accompagner.
Et son mari lui avait offert ça comme cadeau d'anniversaire.
C'est insolite, aussi.
Ah ben, bah, complètement. Et donc, du coup, on est parti pendant presque 15 jours. Moi, il faut qu'il y ait une raison pour faire un voyage. Donc, je lui avais dit avant de partir, j'avais expliqué avant de partir qu'on y allait et je fais des enveloppes selon le voyage et ce qui reste, je le donne au camp de réfugiés. Et que ça soit les Indiens ou que ça soit les Tibétains. En tout cas, ça
ceux
va
qui en ont besoin.
À ceux qui en ont besoin. À Bodh Gaya, on s'est séparés parce que, comme on était trois, les deux voulaient aller au Rajasthan. Sauf que ça a triplé ou quadruplé le budget qu'elles voulaient. Donc, elles sont parties toutes les deux. Et moi, je suis restée à Bodh Gaya, où j'ai fait une rencontre avec un moine qui m'a envoyé voir son cousin qui était moine à Dehradun, puisque c'était Mussoorie. C'est, c'est la ville en haut de Dehradun. Et donc, du coup, j'étais dans un temple juste de moines.
Et alors, avec cette femme-là, quel itinéraire est-ce que vous avez fait en Inde?
Alors, on est arrivé à Delhi, ensuite on est allé à Benares, puis à Katmandou, et ensuite on est revenu sur Bodh Gaya.
Et alors, dans chacune de ces villes, qu'est-ce que vous avez fait ?
Alors, par exemple, à Katmandou, on est allé voir une nonnerie, parce qu'alors, je m'occupais d'une association, et donc, on a fait venir pas mal de Tibétains à une époque, et donc, on est allé les voir dans leur monastère.
Donc, une nonnerie, c'est comme un monastère, mais ce sont les femmes.
Ce sont que des femmes.
D'accord.
Ce sont que des femmes, sauf que le Rinpoche est un homme.
D'accord. Mais l'autorité supérieure de la nonnerie est un homme.
Est un homme.
Okay.
Donc, on est allé les voir et elles nous ont fait vivre à leur rythme. Elles nous ont fait découvrir comment on vivait dans une nonnerie, qui est à peu près pareil que chez les hommes, mais avec plus d'intensité dans la mesure où elles ont plus de travail. Mmh. À Bénarès, on était évidemment allé voir les portes rituelles avec les crémations, avec les ablutions.
On a les fait la rencontre. Les poujas qui sont faites sur le bord du Gange.
On a rencontré les brahmanes et les sadhus. On a vu le parc des gazelles. On a fait vraiment une vraie rencontre, un itinéraire entre l'hindouisme et le bouddhisme.
Est-ce qu'il y avait un projet humanitaire à Bénarès ?
À Bénarès, non.
Non.
Ensuite, on est allé à Bodh Gaya, et là, on a travaillé avec les camps de réfugiés, où on a apporté une partie des médicaments. Donc là, on va en général dans des dispensaires, et donc c'est les médecins qui nous ont dit déjà à l'avance qu'est-ce qu'on pourrait ramener pour les aider, et donc on peut les apporter, et du coup, en remerciement, ils nous font partager un ou deux jours dans les camps de réfugiés pour aider, c'est notre participation.
Et alors, à la fin, cette femme, est-ce qu'elle a été contente de son voyage ?
Alors, plus que ça, c'est que de tous ces voyages qu'elle a faits, elle m'a dit que c'était le plus beau.
Et ça, elle c'est me un l'a beau dit, compliment.
C'était vraiment un beau compliment parce que, en fait, elle me l'a dit pas tout de suite après. Parce que sur le moment, après, c'est quand même un voyage qui est très, très lourd. Mmh. Il se passe quelque chose en toi. Elle m'a rien dit. Pendant quelques temps, on s'est pas vu. Et peut-être 2 ans après, elle m'a dit que ça avait été le plus beau de tous ses voyages.
Mmh. C'est vrai que quand on fait de grands voyages comme ça, souvent quand on part pendant très longtemps, ça demande beaucoup d'énergie. Et quand on revient, il faut un peu de temps pour laisser décanter tout ça.
C'est ça.
Il y a la fatigue et puis un peu l'agacement lié au voyage qui disparaissent et il n'y a les beaux souvenirs qui reviennent en surface.
Ça.
Et donc aujourd'hui, est-ce que tu organises toujours ce type de voyage ?
Non. Je pourrais plus jamais organiser.
Pourquoi non ?
Ce genre de voyage. Parce que j'ai été tellement prise par cette inconscience, cette joie, cette confiance que j'avais et en moi et en ce qui m'entourait, que je le faisais. Et aujourd'hui, rétroactivement, eh bien, on est plein de peur, plein de... je ne sais pas si j'arriverai à canaliser tout le monde.
Tu penses que les conditions de sécurité seraient plus difficiles à respecter ou alors que tu serais peut-être moins tête brûlée que tu l'étais à l'époque ?
Ah bah, je serais complètement moins tête brûlée, ça c'est sûr. C'est terminé, hein. Donc, mais non, là, ça serait pas possible, plus jamais. Mais j'ai fait ça pendant quand même près de 10 ans.
C'est dommage, j'aurais bien aimé faire un voyage avec toi. Un jour, peut-être, j'arriverai à te convaincre.
Eh bien, on en reparlera.
On verra ça. Merci beaucoup.
Merci à toi.
Voilà, on quitte Marie pour l'instant. Mais rassurez-vous, on la retrouvera très bientôt pour qu'elle nous parle d'une expérience incroyable qu'elle a vécue, sa rencontre avec le Dalaï Lama. Je vous en reparlerai très prochainement. Et vous, est-ce que vous auriez aimé faire un voyage humanitaire avec Marie ? Comment est-ce que vous préférez voyager ? N'hésitez pas à me laisser un petit message vocal ou écrit pour partager votre opinion. You, listener, are the reason I created this program. If you've enjoyed it, please help me promote it by leaving a review and 5 stars on iTunes. And if you're listening on other platforms, I'd be so grateful if you could share it with your friends. Si cette conversation vous a semblé difficile, vous trouverez sur notre site internet www.expatlang.com, dans la section podcast, un guide avec toutes les étapes pour travailler efficacement sur chaque épisode. Nous allons maintenant analyser cette conversation. Premièrement, les expressions. Voici quelques expressions que vous pouvez utiliser lorsque vous parlez de vos voyages. En premier lieu, voici une petite particularité. Écoutez cette phrase de Marie.
Alors, on est arrivé à Delhi, ensuite on est allé à Bénarès, puis à Katmandou et ensuite on est revenu sur Bodh Gaya.
On est arrivé à Delhi, ensuite on est allé à Bénarès, puis à Katmandou et ensuite on est revenu sur Bodh Gaya. Vous avez entendu ? Pour présenter la dernière ville de son voyage, Marie dit « sur Bodh Gaya » et non pas « à Bodh Gaya ». Il est tout à fait possible d'utiliser « sur » en français dans cette situation. « Sur Bodh Gaya » signifie « dans la région de Bodh Gaya ». Si Marie avait dit « à Bodh Gaya », elle aurait précisé qu'elles étaient retournées précisément dans la ville de Bodh Gaya. Si vous voulez parler d'une ville et de sa région, vous pouvez tout à fait dire « sur » plus le nom de la ville. Par exemple, cet été, la météo sur Paris était parfaite. On a visité beaucoup de lieux magnifiques. Dans les conversations, de plus en plus de personnes utilisent « sur » à la place de « à ». Par exemple, si une personne habite à Lyon, c'est-à-dire dans la ville de Lyon, il sera fréquent d'entendre « j'habite sur Lyon » plutôt qu'à Lyon. Dire « j'habite sur Lyon » plutôt que « j'habite à Lyon » est très fréquent à l'oral, mais ce n'est pas vraiment accepté à l'écrit ou dans les situations formelles. Ainsi, si vous devez préparer un examen ou rédiger des devoirs pour l'université, évitez d'utiliser « sur Lyon » et dites « à Lyon ».
Alors, on est arrivé à Delhi, ensuite on est allé à Bénarès, puis à Katmandou, et ensuite on est revenu sur Bodh Gaya.
Deuxièmement, voici quelques expressions pour donner vos impressions de voyage. Écoutez cet extrait du dialogue.
Et son mari lui avait offert ça comme cadeau d'anniversaire.
C'est insolite, ça aussi.
Ah bah, complètement.
C'est insolite, ça. Insolite est un mot qu'on utilise très souvent lorsqu'on parle de ses expériences de voyage. Insolite est un mot très pratique pour décrire quelque chose qui est très différent de nos habitudes et qui nous surprend. Évidemment, lorsqu'on voyage, on découvre souvent des habitudes, des styles de vie ou des comportements auxquels nous ne sommes pas habitués et nous sommes généralement surpris. C'est pourquoi insolite est un mot aussi utile dans ce contexte. Par exemple, dans la région où j'habite, la Provence, le printemps commence beaucoup plus tôt que dans d'autres régions de France. Au mois de février, certains arbres commencent déjà à donner des fleurs, comme par exemple le mimosa. Dans le département du Var, de nombreuses villes organisent des corsos. Et les corsos, ce sont de longues processions de chars décorés sur lesquels des personnes dansent et chantent sur des musiques rythmées, comme au carnaval. Et généralement, ce corso se termine par une bataille de fleurs. On jette des poignées de fleurs dans la foule et on doit en attraper le plus possible. Avant d'arriver dans cette région, je ne connaissais pas ces événements et j'ai été très surpris par les batailles de fleurs. Je peux donc dire « j'ai trouvé les batailles de fleurs vraiment insolites » ou encore « les batailles de fleurs, c'est vraiment insolite ». N'hésitez donc pas à utiliser ce petit mot « insolite ».
Et son mari lui avait offert ça comme cadeau d'anniversaire.
C'est insolite, aussi.
Ah bah, complètement.
On continue maintenant avec une deuxième expression. Écoutez cette phrase de Marie.
Après, c'est quand même un voyage qui est très très lourd. Mmh. Il se passe quelque chose en toi.
Un voyage très lourd. Vous connaissez certainement l'adjectif lourd quand on fait la description du poids d'un objet ou d'une personne. Par exemple, si vous partez en vacances, à l'aéroport, si votre valise dépasse le poids autorisé, l'hôtesse au sol ou le steward au sol pourra vous dire « Votre valise est trop lourde, vous devez payer une surtaxe ». Lourd signifie qu'un objet a un poids très élevé. Mais on peut aussi utiliser « lourd » pour parler d'une situation. Lorsqu'elle est très lourde, une situation est grave, elle est sérieuse ou elle est tendue. Par exemple, Marie nous raconte que, pendant son voyage, elle est allée aider des personnes dans des camps de réfugiés et apporter des médicaments dans un dispensaire. Un camp de réfugiés n'est évidemment pas un lieu joyeux. Les personnes qui s'y trouvent ont vécu des expériences parfois horribles. On peut ressentir de la tristesse, de la colère ou de la détresse. Et dans ce cas, on peut dire qu'il y a une ambiance lourde dans le camp. Le voyage que Marie a organisé pour son amie n'était pas seulement un voyage touristique. Marie voulait faire vivre une expérience humaine et humanitaire à son amie. On peut donc imaginer que certains aspects de ce voyage étaient effectivement assez lourds. Attention, je vous recommande de ne pas utiliser « lourd » pour qualifier une personne. Si une personne est lourde, cela ne signifie pas qu'elle est sérieuse ou grave. Cela signifie qu'elle n'est pas très subtile intellectuellement, ou alors qu'elle est trop insistante, c'est-à-dire qu'elle veut absolument faire accepter ses arguments sans forcément écouter l'opinion des personnes autour d'elle. Je vous recommande donc d'éviter de parler d'une personne en disant qu'elle est lourde, sauf, bien sûr, si vous savez précisément ce que vous faites. Voilà donc une autre expression que vous pouvez retenir lorsque vous parlez de vos situations sérieuses pendant vos voyages en français. Lourd ou au féminin, lourde.
Après, c'est quand même un voyage qui est très très lourd. Mmh. Il se passe quelque chose en toi.
Si vous voulez encore plus de vocabulaire pour parler de vos voyages en français, rendez-vous sur le site www.expatlang.com. Vous pourrez y trouver le guide de vocabulaire avec tous les mots et expressions utiles pour décrire vos voyages. Parlez des voyages humanitaires et le vocabulaire spécifique de cet épisode en relation avec l'Inde, le Népal et le Tibet. Nous allons maintenant nous intéresser à la prononciation. Comment prononcer « parce que » dans la conversation ? « Parce que » est un mot extrêmement fréquent lorsqu'on parle. Il nous permet de présenter la raison ou la cause pour laquelle nous faisons une action. Mais à l'oral, « parce que » a généralement une prononciation bien différente. Écoutez par exemple cette phrase de Marie.
Alors en fait, c'était drôle parce que j'ai organisé pas mal de voyages humanitaires.
Alors en fait, c'était drôle parce que j'ai organisé pas mal de voyages humanitaires. La prononciation standard de cette phrase est « Alors en fait, c'était drôle parce que j'ai organisé pas mal de voyages humanitaires. » Vous avez entendu ? À l'oral, « parce que » se prononce en fait « parce que ». Le R de « parce » disparaît complètement et on prononce « parce que ». Nous allons maintenant décomposer cette phrase ensemble. Répétez chaque section après moi. Alors en fait... Alors en fait, c'était drôle. Alors en fait, c'était drôle parce que. Alors en fait, c'était drôle parce que j'ai organisé. Alors en fait, c'était drôle parce que j'ai organisé pas mal de voyages. Alors en fait, c'était drôle parce que j'ai organisé pas mal de voyages humanitaires. Alors en fait, c'était drôle parce que j'ai organisé pas mal de voyages humanitaires.
Alors en fait, c'était drôle parce que j'ai organisé pas mal de voyages humanitaires.
écoutez cette phrase plusieurs fois jusqu'à bien distinguer la prononciation de « parce que » à l'oral. Mais ce n'est pas encore terminé. Vous savez que quand on utilise « parce que », si le mot suivant commence par un son voyelle, comme « a », « e », « i », « o », « u », « y » ou un « h » muet, alors le mot « que » se transforme en « qu » apostrophe. Et à l'oral, la prononciation doit donc changer aussi. Écoutez par exemple cette phrase de Marie.
Alors par exemple, à Katmandou, on est allé voir une nonnerie, parce qu'alors je m'occupais d'une association.
Alors par exemple, à Katmandou, on est allé voir une nonnerie, parce qu'alors je m'occupais d'une association. La prononciation standard de cette phrase devrait être « parce qu'alors je m'occupais d'une association ». Le mot « alors » commence par la voyelle « a ». On doit donc mettre une apostrophe à « parce que »,« parce qu'alors » et non pas « parce que alors ». Et avec la prononciation orale du mot « parce que », ça donne « parce qu'alors »,« parce qu'alors ». Nous allons maintenant décomposer cette phrase ensemble. Répétez chaque section après moi. Parce qu'alors. Parce qu'alors je m'occupais. Parce qu'alors je m'occupais d'une association. Parce qu'alors je m'occupais d'une association.
Alors par exemple, à Katmandou, on est allé voir une nonnerie parce qu'alors je m'occupais d'une association.
Voilà donc pour la prononciation. Si vous voulez travailler plus en détail la prononciation de ce dialogue et mieux comprendre le français oral, vous trouverez la transcription phonétique de cette conversation sur le site internet expatlang.com. Cette transcription vous montrera toutes les différences de prononciation entre le français oral et le français standard, ainsi que toutes les liaisons entre les mots. Vous pourrez donc lire le français comme il est parlé. Voilà, c'est maintenant la fin de ce deuxième épisode du podcast d'Expatlang Understand Native French. Je vais maintenant aller boire un petit café en rêvant au magnifique paysage de Mussoorie en Inde. C'était un véritable plaisir de partager cette conversation avec vous aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous retrouve dans le prochain épisode. Et d'ici là, salut à tous et bonne chance avec le français, les amis.